première.
Par oui dire ?
Oui.
Oui, oui.
Pascal Tison.
Tra le strade saracene, mille chiese d'altri tempi, ci si incontra tanta gente, nulla vivere per niente.
Dimmi.
C'est un art.
Bah oui, dire. Philippe Solers vient de nous quitter au début du mois de mai. Je l'avais rencontré à l'occasion d'un livre consacré à Simone de Beauvoir par Marie-Claude Bonnet qui déconstruisait un peu le mythe Beauvoir. Solers était un de ses admirateurs les plus fervents.
Sans Sartre, il n'y aurait pas Beauvoir. Sans Beauvoir, il n'y aurait pas Sartre. Ce couple est passionnant.
Pendant 50 ans, comme un courant électrique de très haute tension, ils exercent un pouvoir d'attraction considérable. Le temps, l'époque, se règlent sur eux.
Au moment de la guerre antifasciste, il est bien évident qu'il fallait prendre parti pour la guerre. Ce que nous disons simplement, c'est que dans ces circonstances-ci, nous considérons que la guerre ne pourrait apporter aucune espèce de chance au monde et au contraire, que c'est seulement dans la paix que ces chances de l'homme peuvent secourir aujourd'hui.
Mais il s'agit de créer ce qui est, en somme, la mission des intellectuels, un mouvement d'opinion. Il est nécessaire que tout cela puisse comparaître devant le public et que nous appelions le public à réfléchir sur les conditions mêmes de son engagement.
C'était les papes de la contre-culture, hein, on pourrait dire que, comme ça.
Il faut voir la façon dont cet amour, car c'en est un, s'exprime.
Sartre répondait exactement aux vœux de mes 15 ans. Il était le double en qui je retrouvais, porté à l'incandescence, toutes mes manies. Avec lui, je pourrais toujours tout partager. Quand je le quittais au début d'août, je savais que plus jamais il ne sortirait de ma vie.
Elle l'appelle comment ? Tout cher petit, petit bien-aimé, petit pur, cher petit vous autres, cher petit absolu.
Elle fut une idole. Sa beauté consolide le mythe qu'avec Sartre, Simone de Beauvoir va constituer pour beaucoup. On se règle sur eux, ils dictent l'air du temps, il faut penser comme eux, mais aussi en même temps qu'eux. Dans le deuxième sexe, elle écrit « En renonçant au monde, la femme veut conquérir un monde ». Le deuxième sexe deviendra le Coran du féminisme, la formule est de Philippe Solers. Aujourd'hui, un homme et une femme se penchent sur Simone de Beauvoir. Marie-Claude Bonnet est historienne, militante au MLF. Elle rencontre Beauvoir après mai 68. Philippe Solers, amoureux des femmes, trouve en Beauvoir une épistolière de haut vol, un esprit libre, confisqué, dira-t-il, par diverses écoles. La femme a mangé l'œuvre, dirait-on. 30 ans après sa mort, la parole est au texte, aux archives et à Marie-Claude Bonnet et Philippe Solers.
Mais pour trouver en soi un foyer, il faut d'abord s'être réalisé dans des œuvres ou des actes. L'homme ne s'intéresse que médiocrement à son intérieur, parce qu'il accède à l'univers tout entier et parce qu'il peut s'affirmer dans des projets. Au lieu que la femme est enfermée dans la communauté conjugale, il s'agit pour elle de changer cette prison en un royaume. Son attitude à l'égard de son foyer est commandée par cette même dialectique qui définit généralement sa condition. Elle prend en se faisant proie, elle se libère en abdiquant. En renonçant au monde, elle veut conquérir un monde. Ce n'est pas sans regret qu'elle referme derrière elle les portes du foyer. Jeune fille, elle avait toute la terre pour patrie. Les forêts lui appartenaient. À présent, elle est confinée dans un étroit espace. La nature se réduit aux dimensions d'un pot de géranium. Des murs barrent l'horizon. Une héroïne de Virginia Woolf murmure « Je ne distingue plus l'hiver de l'été par l'état de l'herbe ou de la bruyère des landes, mais par la buée ou le gel qui se forme sur la vitre. Moi qui jadis marchais dans les bois de hêtre en admirant la couleur bleue que prend la plume du jet quand elle tombe, moi qui rencontrais sur mon chemin le vagabond et le berger, je vais de chambre en chambre, un plumeau à la main. Les vagues. Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir.
L'aventure du deuxième sexe, qui est publiée en 49, qui est un succès presque immédiat, est-ce que ça va avoir une influence sur le féminisme? Comment vous viviez ce livre, vous, au sein même du MLF? C'est une contradiction, parce qu'en même temps, c'est une vision très négative des femmes qui s'y développent et une critique très acerbe du mythe de la féminité.
Moi, d'abord, je ne l'avais jamais lu.
Marie-Claude Bonnet.
Heureusement, je dirais heureusement.
Vous le découvrez quand?
Après avoir rencontré Beauvoir. Parce que moi, je n'avais jamais entendu parler de Beauvoir. Moi, je venais quand même de la province. Hein. Je venais de Normandie et je ne connaissais pas ni Beauvoir, ni le deuxième sexe.
Parce que c'est quand même un livre qui était énormément lu.
Oui, mais moi, je suis née en 49. Hein. Je suis née l'année de parution du deuxième sexe. Ouais. Hein. Puis à l'école, au lycée, jamais j'en ai entendu parler quand même. Il faut le dire, hein. Bon, mais là, toutes les copines, alors elles avaient lu Le Deuxième Sexe quand elles étaient jeunes, c'est-à-dire dans les années 50-60. Là, on est au début des années 70. Et les références des filles du MLF, c'était le marxisme, le léninisme, le maoïsme. C'était l'extrême-gauche. C'était plus du tout Simone de Beauvoir. Et vous avez qu'à lire les premiers textes, elle n'est jamais citée, Beauvoir. C'est Engels, sa réflexion sur la famille, parce qu'on était dans la problématique lutte de classe, lutte de sexe.
Et vous, à un moment donné, vous le lisez, ce deuxième sexe,
oui.
Quand même. Oui. Et qu'est-ce que ça fait chez vous? Qu'est-ce que ça a comme écho?
Ah, j'étais assez déprimée, parce que quand j'ai vu qu'elle disait que les femmes, c'était le féminin, c'était la passivité, et que les hommes, c'était le masculin, l'activité, moi, je ne me reconnaissais pas du tout là-dedans. Et j'ai essayé de m'adapter à son système de pensée et ça ne marchait pas du tout. Parce que moi, je me voyais comme sujet de mon désir. Par exemple, le fait que je désirais les femmes déjà. Donc, il avait fallu que je fasse tout un chemin pour reconnaître que chez moi, le désir, il était plus fort que le conditionnement social. Vous voyez ? Donc, j'avais d'une certaine manière, dans ma vie, dépassé le deuxième sexe.
Est-ce que vous avez pu en parler avec elle ? Est-ce que c'était envisageable, ça ?
Non.
Non.
Non, non, parce qu'on était dans une autre problématique. Il ne faut pas oublier que le MLF, on était en train de découvrir la société mâle. C'était la non-mixité, c'était les femmes en révolte, nous les femmes. Mais ça ne s'était jamais passé, jamais dans le deuxième sexe, elle dira « nous les femmes ».
Alors vous savez que Simone de Beauvoir nous a quittés il y a 30 ans. J'ai le sentiment que le personnage a un peu mangé l'œuvre. Et vous la citez souvent comme étant une femme importante et aussi une œuvre importante. Et ça me semblait intéressant qu'un homme reparle aujourd'hui de Simone de Beauvoir. Pourquoi est-elle importante pour vous?
Beauvoir est un excellent écrivain.
Philippe Solers.
Et elle a eu ce curieux destin d'être instrumentalisée pour des raisons qui sont tout à fait acceptables, c'est le cours du temps, d'être instrumentalisée comme idéologue. Or, si on oublie que c'est d'abord un écrivain et une philosophe. Si on oublie qu'elle a beaucoup écrit, et si, surtout si on ne lit que le deuxième sexe, qui est devenu le Coran féministe, on se trompe gravement, comme c'est déjà souvent arrivé. Par conséquent, je crois que le moment est venu de rappeler qui était Beauvoir, et surtout quelque chose qui a de plus en plus tendance à être oublié, ce qui est un scandale, c'est son aventure avec Sartre. On va de plus en plus dans une historicité falsifiée, par exemple aux États-Unis d'Amérique, où c'est très simple. En effet, le mouvement féministe a pris son ampleur, et le deuxième sexe, encore une fois, est le livre de référence. Tout Beauvoir passe là-dedans, et d'une certaine façon, Sartre n'existe plus. Ce qui est une erreur fabuleuse. Sans Sartre, il n'y aurait pas Beauvoir. Sans Beauvoir, il n'y aurait pas Sartre. Ce couple est passionnant si on prend la façon dont ils se rencontrent, dont ils partagent tout, avec un curieux contrat de transparence d'ailleurs qui me paraît erroné, car elle l'a rempli, elle, d'une certaine façon, mais lui, non. Donc c'est une erreur. Il ne faut pas qu'il y ait de transparence totale entre les êtres humains. C'est une erreur profonde. Mais peu importe, il faut voir la façon dont cet amour, car c'en est un, s'exprime. Donc, les mots qu'emploie Beauvoir pour parler de Sartre au début sont tout à fait extraordinaires. Pour la raison suivante. C'est qu'il faut que Beauvoir écrive au présent. Dès qu'elle écrit au passé simple, comme dans ses mémoires, à la force de l'âge, ça se ralentit beaucoup. Là où elle est exceptionnelle, c'est dans sa correspondance et dans ses notations au présent. Elle est là d'une sensibilité, d'une justesse totale. Les lettres à Sartre, les lettres et extraordinaires à Nelson Algren, qui est son chef-d'œuvre, peut-être. Et voyons comment Sartre lui écrit. Voyons, je prends simplement le style. Hein. Sartre est prisonnier. Et il lui écrit quoi ? « À demain, ma chère petite fleur, je vous embrasse de toutes mes forces. » Bien. Beauvoir lui répond de la façon suivante. Elle l'appelle comment ? « Tout cher petit, petit bien-aimé, petit pur, cher petit vous autres, cher petit absolu. » Bon, Sartre lui confie ce qu'il est en train de cogiter à propos du néant. L'être et le néant. Elle lui écrit gentiment. « Vous seriez donc un bien grand philosophe, petite bonne tête. » Encore plus gentil au moment de la nausée. La nausée est un chef-d'œuvre très supérieur à L'étranger de Camus, par exemple. Il faut relire de temps en temps la nausée pour savoir où nous sommes, c'est-à-dire juste avant la Seconde Guerre mondiale, et voir ce qui arrive dans un pays qui s'appelle la France à ce moment-là. Il faut relire la nausée. Moi, je relis souvent la nausée, puisque j'ai souvent l'impression d'avoir la nausée. Elle lui écrit ça. « Je trouve un peu que c'est inutile d'écrire si on ne rend pas un son neuf et inquiétant comme Kafka et vous. » Quel éloge ! Mais surtout, la chose suivante, toujours à Sartre, « Je vous aime, j'embrasse tout votre petit visage, mon amour. » Ou encore, « Je suis tout effondré de tendresse pour vous. »
C'était la première fois de ma vie que je me sentais intellectuellement dominée par quelqu'un. Beaucoup plus âgé que moi, Garrick, Naudier m'en avaient imposé, mais de loin, vaguement, sans que je me confronte à eux. Sartre, tous les jours, toute la journée, je me mesurais à lui. Et dans nos discussions, je ne faisais pas le poids. Au Luxembourg, un matin, près de la Fontaine Médicis, je lui exposais cette morale pluraliste que je m'étais fabriquée pour justifier les gens que j'aimais mais à qui je n'aurais pas voulu ressembler. Il la mit en pièces. J'y tenais, parce qu'elle m'autorisait à prendre mon cœur pour arbitre du bien et du mal. Je me débattis pendant 3 heures. Je dus reconnaître ma défaite. En outre, je m'étais aperçu au cours de la conversation que beaucoup de mes opinions ne reposaient que sur des partis pris de la mauvaise foi, de l'étourderie, que mes raisonnements boitaient, que mes idées étaient confuses. Je ne suis plus sûre de ce que je pense, ni même de penser, notai-je, désarçonnée. Je n'y mettais aucun amour propre. J'étais beaucoup plus curieuse qu'impérieuse. J'aimais mieux apprendre que briller. Mais tout de même, après tant d'années d'arrogante solitude, c'était un sérieux événement de découvrir que je n'étais ni l'unique, ni la première. Une parmi d'autres. Et soudain, incertaine de ses véritables capacités. Mémoire d'une jeune fille rangée, Simone de Beauvoir. Marie-Claude Bonnet a écrit « Simone de Beauvoir et les femmes », un livre plutôt à charge contre Simone de Beauvoir.
C'est-à-dire, on ne peut pas dire que je fais une charge. J'essaye de restituer une forme de vérité sur toute une partie de sa vie qu'elle avait cachée. Parce que quand je l'ai connue, quand nous l'avons connue, donc parce que j'étais au MLF, et j'étais dans un groupe d'historiennes qui travaillions avec elle pour des émissions de télévision sur Sartre dans le siècle. Et donc on allait assez régulièrement chez elle travailler sur l'histoire des femmes. Et là, nous toutes, aucune ne pensait qu'elle avait eu et qu'elle avait des relations avec des femmes, des liaisons homosexuelles, bisexualisant. Et au mouvement, il y avait des grands débats sur des grands conflits entre homosexualité, hétérosexualité, etc. Et donc, évidemment, si on avait su qu'elle était lesbienne, ça nous aurait bien aidé. Vous voyez, ça aurait permis d'apaiser un peu les tensions qu'il y avait sur ces questions-là. Or, elle ne l'a jamais dit. Et je l'ai découvert donc en lisant sa correspondance avec Sartre. Les lettres au castor, que c'est elle-même qui les a publiées d'ailleurs. Là, je suis tombée de haut parce que non seulement on découvrait qu'elle avait eu plusieurs liaisons, mais en plus de ça, c'était des liaisons quand même qui étaient assez difficiles. Enfin, je veux dire, pour les jeunes femmes, elle a été très dure.
Elle était très manipulatrice. En fait, en lisant votre livre, c'est ça qui sort surtout comme sentiment, comme impression que l'on a d'elle.
Ah oui, oui, c'est une femme d'emprise, hein. C'est assez terrifiant. Hein. Il ne fallait pas tomber amoureuse de Beauvoir, hein, ça je vous le dis. Hein.
Même quand on était un homme, ou bien c'était différent si on était un homme?
Les hommes avaient d'autres armes et elle les respectait plus, je dirais, hein, que les femmes. Là, les femmes, elles n'avaient aucun scrupule pour les manipuler, malheureusement. Oui, c'est ça le côté négatif de Beauvoir qui fait réfléchir quand même, hein, parce que c'est pas très agréable, une femme comme elle. Quand même, on avait beaucoup d'estime. Enfin, moi, j'avais beaucoup d'estime pour elle. De découvrir ce côté-là de sa personnalité, ça fait quand même froid dans le dos. Hein. Ça fait réfléchir.
Contrairement à ses mémoires où le passé simple ralentit l'action, elle est là intensément, présente, précise, sensuelle, drôle, plaisante. Les mots « petit » et « plaisant » reviennent sans cesse sous sa plume. Qu'est-ce qui est plaisant ? Oh, je prends le pari. Loin de toutes les récupérations militantes ou universitaires, elle restera comme une grande épistolière qui révélera un jour une anthologie. c'est ça. Ces lettres à Sartre et à Nelson Algren, mais aussi à Boss et sûrement à Lanzmann, parce que ce sont des lettres qui manquent et il faudrait quand même qu'elles soient un jour ou l'autre, que le Beauvoir et Lanzmann arrêtent de jouer à cache-cache avec... c'est très important, les lettres à Lanzmann. Sa liaison avec Lanzmann, dont il parle d'une façon qui est un peu ambiguë dans le livre de Patagonie, parce que c'est quelque chose... à mon avis, qui ne correspond pas à l'écriture des lettres de Beauvoir. Donc, on montre ces lettres, elles sont absolument importantes, sans quoi on ne pourra pas dire exactement de quoi il s'est agi quand un jour, ce jeune et beau Lanzmann, qu'elle appelait son cheval noir, l'invite pour aller au cinéma. Elle comprend tout de suite qu'il s'agit d'autre chose, et bien entendu, elle est tout à fait étonnante, parce qu'elle retrouve son corps lorsqu'elle a une relation avec un homme. Il faut dire les choses comme elles sont, beaucoup plus que ces expériences demi-homosexuelles qui ne sont pas vraiment convaincantes et dont elle a une sorte de jugement très négatif.
Mon chéri, ma vie est très rangée. Chaque matin, 4 heures de bibliothèque nationale, déjeuner avec une amie ou une autre. L'après-midi, travail dans le bureau de Sartre, dîner avec lui dans quelques restaurants et enfin scotch and soda dans quelques bars. Je me couche à minuit et je recommence. Mes amis ne me sont pas d'un grand réconfort. La petite Russe, à nouveau gravement malade, pique chaque soir un fort accès de fièvre. Elle sait qu'elle peut mourir dans l'année et attend un médicament américain miraculeux. Mais agira-t-il ? Quant à l'ami juif, c'est une catastrophe. Il y a 10 ans, elle s'était profondément amourachée de moi, mais étant donné sa jeunesse, ça ne me semblait pas tirer à conséquence. Malheureusement, sa psychanalyse l'a fait régresser et hier, elle m'a dit en tremblant de tout son corps qu'elle avait peur de continuer à m'aimer aussi fort qu'autrefois, malgré mari et enfant. C'était désagréable. C'est une affaire que je n'aime pas trop évoquer, comme vous, celle de Marie G. Et surtout, je ne vois pas ce que je pourrais faire maintenant. Je n'ai guère de sympathie pour elle. Et de toute façon, loin de s'accrocher à moi, elle doit vivre par elle-même, ce dont elle est incapable. Simone de Beauvoir, lettre à Nelson Algren, 15 janvier 1948.
À un moment, Beauvoir écrit à Algren, Nelson. « Aimez-vous ça, chérie ?» C'est un Américain finalement provincial, Algren. Elle veut lui donner un peu de piment. Hein, donc il s'arde. Et puis voilà. Alors là, c'est le deuxième sexe qui arrive là, dans ses lettres. À la bibliothèque, chérie, dit-elle à Algren, je m'informe sur les multiples façons dont vous, ignobles hommes, nous avez opprimés, nous, pauvres créatures féminines, voyez l'humour. Au revoir, baiser d'amour sans fin, mon bien-aimé, votre Simone. Voilà. Et là, une autre fois, et ça c'est merveilleux, merveilleux. Connaissez-vous Casanova ? Lui dit-elle à son provincial américain. Les Américains étant devenus de plus en plus provinciaux. Connaissez-vous Casanova ? On va poser la question aussi bien à Trump, c'est même pas la peine d'aller lui poser. Oui, mais on peut la poser à Hillary Clinton, la réponse sera aussi conventionnelle que possible. Tout ça. Connaissez-vous Casanova ? Chérie, voilà un type qui savait baiser, du moins l'affirme-t-il dans ses mémoires. Mais il ne méprisait pas les femmes pour cela. Chérie, toujours à l'heure, chérie, vous devenez trop vertueux. Ça me fait honte. Faites simplement ce qui vous chante, quand ça vous chante. Vous n'avez pas à vivre comme un moine, puisque vous n'êtes pas moine. Ce dont je vous félicite, mon cœur vous bénira dans le vice comme dans la vertu. Voilà, Simone de Beauvoir, exceptionnelle. Et si je ne le fais pas, personne ne le fera.
Est-ce que sa position féministe relevait de l'imposture pour vous ?
C'est-à-dire que je pense que ce sont les autres qui l'ont qualifiée de féministe.
Elle-même n'aurait pas utilisé ce mot-là, de toute façon.
Mais elle le disait bien dans Le Deuxième Sexe. Pour elle, le féminisme, c'est un enfermement.
Quand elle vous rencontre, alors vous, MLF, est-ce que ça provoque un choc chez elle ?
Complètement. Complètement. Là, elle ne parlait plus d'enfermement et elle était présente avec nous. Elle était partante, tout ce qu'on lui proposait, elle était d'accord. Et donc, elle a complètement changé. C'était aussi une époque où Sartre était malade, donc sa relation avec lui était beaucoup moins vivante.
On est au début des années 70, là, à peu près, voilà. Pour resituer les choses, oui.
C'est un contexte très particulier, le MLF. Elle vient de sortir un livre sur la vieillesse. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte.
Oui.
Elle est occupée par la question de la vieillesse. Et nous, on arrive, on est les jeunes de mai 68, qui avons vécu les événements et qui avons découvert que vraiment on en avait assez d'aller chercher le café pour les hommes, pour les grands chefs, de taper les tracts, etc. Donc ça a été vraiment une révolte issue de mai 68. Et elle était dans le groupe de la gauche prolétarienne avec Sartre. Et nous, moi j'étais pas à l'extrême gauche, mais enfin la plupart des amis étaient de l'extrême gauche. Et on rompait les amarres avec toute cette idéologie militante, le militantisme masculin, si vous voulez, avec les chefs, la hiérarchie, celui qui pense, celle qui obéit, etc. Tout ça, on n'en voulait plus. Si vous voulez, Beauvoir, elle n'avait pas fait ce chemin-là.
Et vous, personnellement, Simone de Beauvoir, est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu, disons, une destinée bien remplie et bien accomplie, ou bien est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'on a voulu vous freiner dans votre carrière ?
Non, je n'ai pas du tout été freinée. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai jamais été freinée, sauf que, naturellement, les critiques, les journalistes ont été beaucoup plus hostiles que si j'avais été un homme, beaucoup plus malveillant, beaucoup plus volontiers blessant. Seulement ça, comme je m'en moque complètement, ça n'a pas l'importance. Ça ne m'a pas du tout gênée. Et en fait, mais j'ai eu la chance d'être vraiment de faire partie d'une couche de femmes que j'ai privilégiées, à savoir les intellectuels, agrégés, professeurs. Ce sont justement les situations dans lesquelles il y a à peu près égalité entre les hommes et les femmes. Donc personnellement, et puis toutes mes amitiés masculines ont été des amitiés très heureuses. Je n'ai jamais, d'ailleurs, je n'aurais pas supporté d'avoir des relations amicales ou autres avec un homme qui n'aurait pas été entièrement féministe pour l'égalité. Par conséquent, personnellement, il ne s'agit pas du tout, comme on le dit trop souvent pour d'autres femmes, pour qui peut-être c'est le même cas que le mien, il ne s'agit pas du tout d'une revendication personnelle, il ne s'agit pas du tout d'une crise de ressentiment, rien de tel. C'est simplement, objectivement, que le fait de la condition de la femme me semble aussi scandaleuse que celle, par exemple, des esclaves dans les démocraties grecques.
Parce qu'elle, elle était en position dominante, elle était la compagne de Sartre. Donc on la respectait, on ne lui demandait pas de taper les tracts parce qu'elle était une fille. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'était ce qui se passait.
Mais alors pourquoi elle, qui s'est toujours voulue quand même libertaire, a-t-elle préféré occulter ses amours homosexuels ? Qu'est-ce que ça représentait pour elle de dangereux ?
À plusieurs niveaux. D'abord par rapport à sa mère. Je pense qu'elle ne voulait pas que sa mère le sache. Ça, c'est le premier point. Mais même après la mort de sa mère, elle ne l'a pas dit. Donc, en fait, c'était quand même pas la mère le problème.
Marie-Claude Bonnet.
Je pense que dans son milieu, c'était quelque chose quand même qui était difficile à assumer. Petite bourgeoisie, petite bourgeoisie, ex-grande bourgeoisie, disons.
Tombée dans la déchéance. Oui,
ouais, catholique, quand même, elle vient de là. C'est le péché quand même. Il y a le deuxième point. Le troisième point, c'est sa propre conception de l'homosexualité. Pour elle, l'homosexualité, ce n'est pas valorisant. Désirer le féminin, ce n'est pas valorisant. C'est même plutôt déprimant pour elle. Elle dit beaucoup de mal du féminin dans Le Deuxième Sexe. Et les lesbiennes viriles, comme elle les appelle, pour elle, ce sont des castrats. Je ne sais pas si vous voyez un peu sa conception. Alors, je ne la vois pas en train de s'identifier à une lesbienne, franchement. c'est impossible pour elle. Elle a une vision trop négative des femmes pour s'identifier comme lesbienne.
Et pourtant, dans ses lettres à son amant américain, Al Green, elle fait souvent référence au fait qu'elle séduit beaucoup les jeunes femmes, qu'elle est très séduisante pour elle, ça la flatte.
Mais c'est, si vous voulez, c'est un jeu pervers avec son amant. C'est pour lui montrer, mais tu sais, il n'y a pas que toi qui me désires. Il y a aussi des femmes qui me désirent. Vous voyez, c'est pour faire monter la sauce, si je peux dire. Ça marche d'ailleurs. Ça marche très bien avec les hommes parce qu'ils adorent être en rivalité avec des femmes.
dans le cœur des femmes.
Le silence entre nous est devenu tout à fait opaque. Jusqu'à la sortie de l'invité, elle a presque tout ignoré de ma vie. Elle a essayé de se convaincre qu'au moins sur le chapitre des mœurs, j'étais sérieuse. La rumeur publique a démoli ses illusions, mais à ce moment-là, notre rapport avait changé. Elle dépendait matériellement de moi. Elle ne prenait aucune décision pratique sans me consulter. J'étais le soutien de famille, en quelque sorte son fils. D'autre part, j'étais un écrivain connu. Ces circonstances excusaient en partie l'irrégularité de ma vie, que d'ailleurs elle réduisait au minimum. Une union libre, moins impie somme toute qu'un mariage civil. Souvent choquée par le contenu de mes livres, elle était flattée par leur succès. Mais par l'autorité qu'ils me conféraient à ses yeux, il aggravait son malaise. J'avais beau éviter toute discussion, ou peut-être précisément parce que je les évitais, elle pensait que je la jugeais. Poupette, la petite, moins respectée que moi, et qui, ayant été moins marquée par maman, n'avait pas hérité de sa raideur, avait avec elle des rapports plus libres. Elle se chargea de lui donner tous les apaisements possibles qu'en parurent les mémoires d'une jeune fille rangée. Moi, je me bornais à lui apporter un bouquet en m'excusant d'un mot. Elle en a été d'ailleurs touchée et stupéfaite. Un jour, elle m'a dit « Les parents ne comprennent pas leurs enfants, mais c'est réciproque. » Nous avons parlé de ces malentendus, mais dans leur généralité. Simone de Beauvoir, Une mort très douce.
Le deuxième sexe, il n'a pas débouché sur un mouvement féministe.
Mais elle se mettait toujours dans une position d'exception. Elle était la femme singulière, la
compagne. Exactement.
Oui, c'est ça.
Elle ne se voit pas comme femme.
Est-ce qu'elle s'estimait comme femme, à votre avis ?
Je ne pense pas, non. On ne peut pas s'estimer quand on a une vision aussi négative des femmes. Ce n'est pas possible.
Même si on se met sur un socle.
Mais de toute façon, elle estimait qu'elle venait de nulle part. Et que, vous voyez, quand, dans les mémoires d'une jeune fille rangée, elle dit « Je me rêvais d'être ma propre cause et ma propre fin ». Ça veut dire qu'elle ne vient pas de sa mère. Ça veut dire qu'elle coupe déjà l'héritage maternel. Et elle coupe la transmission. Vous voyez, il n'y a pas de transmission dans sa tête. Ça ne l'intéresse pas. Elle n'est pas dans une généalogie féministe. Vous voyez, elle n'est pas dans l'histoire. C'est ça que je veux dire. Parce qu'elle va construire tout en disant « tout commence avec moi », grosso modo. Hein. C'est vrai.
Mais trahison de classe, trahison de sexe, ça fait beaucoup pour une seule femme.
Oui, ben oui, c'est les années 50. Hein. Mais c'est intéressant quand même à étudier parce que c'est un symptôme d'une femme exceptionnellement intelligente qui n'arrive pas à prendre sa place. Il n'y a aucune place prévue pour elle dans la société des années 50. C'est pas possible. Elle est trop douée. Vous voyez, c'est tout le drame des femmes qui sont douées.
En ce sens-là, elle est symptomatique pour vous ?
Ah mais complètement. C'est comme une rose qui pousse au milieu des orties. Vous voyez, je veux dire, les orties, parfois, elles poussent plus que la rose. Les sociétés machistes, comme celle dans laquelle on a grandi, en tout cas moi, c'est des sociétés qui ne supportent pas le don, les femmes douées. Et je pense qu'elle a dû souffrir beaucoup de ça, Beauvoir. Et heureusement qu'elle a rencontré Sartre, parce que ça a été un compagnon de vie et ça lui a permis de sortir de cette glu machiste. Hein. Mais elle aurait pu devenir beaucoup plus solidaire avec les autres femmes qui s'en étaient sorties, comme Marguerite Yourcenar. Enfin, il y a quand même Irène Némirovski, il y a quand même
ou Marguerite Duras.
Époque. Mais oui.
Dont elle dit des choses redoutables, hein, que vous citez dans votre livre.
Mais exactement. Donc, je dirais, elle ne s'est jamais sentie solidaire avec les femmes qui s'en sortaient. Vous voyez, c'est ça, moi, qui me choque beaucoup.
La monotonie de l'existence adulte m'avait toujours apitoyée. Quand je me rendis compte que dans un bref délai, elle deviendrait mon lot, l'angoisse me prit. Un après-midi, j'aidais maman à faire la vaisselle. Elle lavait des assiettes, je les essuyais. Par la fenêtre, je voyais le mur de la caserne des pompiers et d'autres cuisines où des femmes frottaient des casseroles ou épluchaient des légumes. Chaque jour, le déjeuner, le dîner, chaque jour, la vaisselle. Ces heures indéfiniment recommencées et qui ne mènent nulle part. Vivrais-je ainsi ? Une image se forma dans ma tête avec une netteté si désolante que je me la rappelle encore aujourd'hui. Une rangée de carrés gris s'étendaient jusqu'à l'horizon, diminués selon les lois de la perspective, mais tous identiques et plats. C'étaient les jours et les semaines et les années. Moi, depuis ma naissance, je m'étais endormie chaque soir un peu plus riche que la veille. Je m'élevais de degré en degré. Mais si je ne trouvais là-haut qu'un morne plateau sans aucun but vers lequel marcher, à quoi bon ? Non, me dis-je, tout en rangeant dans le placard une pile d'assiettes, ma vie, à moi, conduira quelque part. Heureusement, je n'étais pas vouée à un destin de ménagère. Mon père n'était pas féministe, il admirait la sagesse des romans de Colette Ivet, où l'avocate, la doctoresse, finissent par sacrifier leur carrière à l'harmonie du foyer. Mais nécessité fait loi. Vous, mes petites, vous ne vous marierez pas, répétait-il souvent. Vous n'avez pas de dot, il faudra travailler. Je préférais infiniment la perspective d'un métier à celle du mariage. Elle autorisait des espoirs. Il y avait eu des gens qui avaient fait des choses. J'en ferais. Je ne prévoyais pas bien lesquelles. L'astronomie, l'archéologie, la paléontologie, tour à tour, m'avaient réclamé et je continuais à caresser vaguement le dessein d'écrire. Mais ces projets manquaient de consistance. Je n'y croyais pas assez pour envisager avec confiance l'avenir. D'avance, je portais le deuil de mon passé. J'avais décidé depuis longtemps de consacrer ma vie à des travaux intellectuels. Zaza me scandalisa en déclarant d'un ton provoquant « Mettre 9 enfants au monde comme l'a fait maman, ça vaut bien autant que d'écrire des livres. » Je ne voyais pas de commune mesure entre ces deux destins. Avoir des enfants qui, à leur tour, auraient des enfants, c'était rabâcher à l'infini la même ennuyeuse ritournelle. Le savant, l'artiste, l'écrivain, le penseur créaient un autre monde lumineux et joyeux où tout avait sa raison d'être. C'était là que je voulais passer mes jours. J'étais bien décidée à m'y tailler une place. Lorsque j'eus renoncé au ciel, mes ambitions terrestres s'accusèrent. Il fallait émerger. Étendue dans un pré, je contemplais, juste à la hauteur de mon regard, le déferlement des brins d'herbe, tous identiques, chacun noyé dans la jungle minuscule qui lui cachait tous les autres. Cette répétition indéfinie de l'ignorance, de l'indifférence, équivalait à la mort. Je levai les yeux vers le chêne. Il dominait le paysage et n'avait pas de semblable. Je serais pareil à lui. Mémoire d'une jeune fille rangée, Simone de Beauvoir.
C'est dans ce sens-là qu'elle n'aime pas les femmes.
Tout en les aimant et tout en étant très séduite par leur féminité.
Elle désire la jeunesse. Ça, c'est sûr.
Ça commence avec Elisabeth, cette jeune femme qu'elle rencontre quand elle est presque enfant encore et qui va être une figure qui va l'accompagner finalement toute sa vie.
C'est un soleil pour elle. C'est comme si elle rencontrait son double, vous voyez. C'était merveilleux. Ah oui, oui, ça l'a complètement éclairée. Mais le problème, c'est qu'Elisabeth est morte. Et donc, si vous voulez, elle s'est retrouvée donc seule. Et ça s'est passé au moment de la rencontre avec Sartre.
Sartre répondait exactement aux vœux de mes 15 ans. Il était le double en qui je retrouvais, porté à l'incandescence, toutes mes manies. Avec lui, je pourrais toujours tout partager. Quand je le quittais au début d'août, je savais que plus jamais il ne sortirait de ma vie. Mémoire d'une jeune fille rangée, Simone de Beauvoir.
Mais vous disiez justement, et elle le disait aussi, Sartre était son double et un double qui va l'adouber en quelque sorte.
Un double féminin-masculin, je dirais. Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est-à-dire qu'elle a changé de double. Hein. Mais Zaza, c'était plus lumineux, je pense, comme double. Parce qu'elle venait de la chrétienté, hein, toutes les deux. Hein. Elles étaient catholiques. Et il y avait encore toute la réflexion sur Dieu, qui était encore présente dans sa vie et qu'elle va quitter là, avec Sartre.
Pourquoi est-ce qu'elle va le mettre comme ça en position de voyeur par rapport à ses amies femmes, ses petites amies comme il les appelle?
Est-ce que je voudrais dire parce qu'il était myope et parce que... C'est vrai, hein, il avait un œil qui ne voyait pas, hein, donc c'est un voyeur quand même qui ne voit pas très bien. Hein.
Mais qu'elle va manipuler et puis en même temps elle va lui présenter ses femmes, il va être amoureux intensément d'Olga.
Oui,
C'est-à-dire qu'elle va manipuler le besoin de Sartre d'être aimé par des femmes et désiré. Et ça, parce que ça va permettre justement de resserrer les liens avec lui. Vous voyez ? Parce qu'il a tendance à vouloir prendre sa liberté, puis elle lui dit « Coucou, je suis là, reste avec moi. »
C'est une façon d'avoir une mamie sur lui, de lui présenter des femmes qu'elle choisit elle-même.
Bien sûr.
Et quand Dolores arrive, ça ne marche plus ?
Ben non, parce qu'elle, elle n'est pas dans le coup avec Dolores. Hein, et Sartre, il fait tout pour l'éloigner. Il l'envoie aux États-Unis. Hein.
Ça a bien failli se casser à ce moment-là.
Oui, absolument. Elle faisait des cauchemars et tout. Ah oui, ça allait très mal. Hein. Et ce qui l'a sauvée, c'est donc Al Green. Et c'est le deuxième sexe. Parce que le deuxième sexe, ça va lui permettre de gagner de l'argent. Parce que c'est ce qu'on ne dit pas, mais elle était dépendante de Sartre économiquement. Après qu'elle ait été exclue de l'éducation, enfin ça ne s'appelait pas nationale à l'époque, qu'elle ait été virée du lycée, donc il fallait qu'elle gagne sa vie.
Elle a été virée du lycée parce que justement elle était lesbienne.
Voilà, pour détournement de mineurs, enfin soi-disant. Mais en fait il n'y avait rien dans le dossier, mais elle a quand même été virée. Et donc après, donc fallait qu'elle gagne sa vie. Et comme Sartre gagnait bien sa vie, donc il faisait bourse commune. Parce que Sartre, il a ce côté très généreux. Toute sa vie, il a entretenu énormément de femmes. Vous voyez, avec son... Et il écrivait tout ça pour que tout le monde puisse vivre. Donc, mais Beauvoir, ça lui pesait énormément d'être entretenu par Sartre, cette bourse commune. Donc, le deuxième sexe, ça a été le moyen de reconquérir son autonomie financière. Et ça a été très important. Et toute sa vie, Beauvoir, elle a soutenu l'autonomie financière des femmes.
Ça, c'est une chose qui est radicale dès le départ pour elle, soutenir
Oui.
Oui, c'est ça, l'indépendance financière.
Elle voyait bien sa mère et tout. Je veux dire, surtout dans la bourgeoisie, les femmes qui doivent demander de l'argent à leur mari, vous voyez, c'est vraiment aliénant comme position. Oui.
Votre public, ici à Bruxelles, lors de vos conférences, était essentiellement féminin. Et je voudrais savoir si, arrivé dans la force de l'âge, vous avez encore toujours la même position que celle que vous aviez en écrivant « Le deuxième sexe ».
J'ai exactement les mêmes idées. Et j'ai constaté, en fait, pendant ces 10 années, car cela fait à peu près maintenant 10 ans que j'ai écrit le livre, même un petit peu plus, que la situation de la femme était bien telle que je l'avais décrite. Et elle n'a pas changé pour la bonne raison qu'elle ne peut changer que le jour où la société changerait d'une manière profonde. Tant que la société reste ce qu'elle est, la femme garde exactement dans la société la même place qu'elle avait avant. Et du coup, elle est déchirée exactement par les mêmes conflits, par les mêmes contradictions. Peut-être même un peu plus qu'avant, parce que peut-être elle a fait une prise de conscience un peu plus nette. Et en fait, enfin, j'ai examiné pas mal de livres et d'articles parus ces derniers temps, et surtout statistiques, sur ce que les femmes ont pu acquérir ou conquérir pendant ces 15 dernières années. Eh bien, ça n'est pratiquement rien, parce qu'il y a peut-être un peu plus de femmes qui travaillent qu'avant, mais elles restent toujours cantonnées dans des stades très inférieurs. Ce n'est quand même qu'une minorité de femmes qui travaillent et il y a toujours pour elles ce terrible dilemme de savoir qu'elles doivent choisir entre être femme au foyer, mère, etc. ou travailler dehors. Et celles qui concilient les deux n'y arrivent qu'à cause de, à grâce plutôt, à de terribles acrobaties. Et en fait, moi je ne vois de vraie solution au problème féminin que le jour où il y aurait du travail pour tous et où le travail serait donc devenu quelque chose qui va de soi pour la femme comme pour l'homme. Mais comme nous sommes encore très loin d'un stade où l'économie serait assez harmonieuse, serait assez en progrès pour qu'il y ait vraiment un plein emploi de toutes les ressources humaines sur Terre, je crois que nous sommes très loin également de la solution du problème de la femme qui est avant tout, à mes yeux, un problème d'ordre économique.
Le deuxième sexe, l'idée en revient à Sartre en quelque sorte. C'est lui qui lui suggère d'écrire ce livre.
Mais oui, parce qu'elle, elle n'avait pas conscience que le fait d'être une femme, ça posait un problème.
Ah oui, quand
même.
C'est drôle,
hein ?
Oui, c'est étrange, oui. C'est parce sa position que... d'exception qui faisait qu'elle pensait ça.
Voilà. Elle a toujours voulu s'en sortir toute seule. Elle ne pensait pas qu'on pouvait s'en sortir par un mouvement collectif, par une association avec d'autres femmes et d'autres hommes. Vous voyez, c'est très curieux chez elle. Elle n'a pas le sens du collectif, pas du tout. Ce n'est pas une conscience collective. Alors que nous, au MLF, on avait quand même une conscience collective très forte. Et c'était une énergie collective très forte.
Et ça, elle l'a senti quand même, cette énergie.
Oh bah oui, ouais. Elle était contente, elle était heureuse avec nous. Alors je peux vous dire, hein. Et pourtant, nous, on était vraiment emmerdantes. Hein. On ne laissait rien passer. On fumait tout. Enfin, je veux dire, c'était incroyable. Hein. Mais elle était bien, elle se sentait bien. Vraiment, ça lui plaisait. Et moi, je ne me rendais pas compte à quel point c'était nouveau pour elle, forcément, puisque je ne l'avais pas connue avant. Et ça lui donnait, en plus de ça, du poids vis-à-vis de Sartre.
Ah oui, parce vous pensez que... ça, il y a eu un changement.
Ah bah oui, elle a retrouvé une base. Comme on dit, elle avait une base de femme qui était avec elle.
Et comment
elle
réagissait-il, lui?
Mais lui, il était content, je veux dire. C'était un homme qui était très ouvert, très intelligent. Il avait très bien compris l'importance du MLF. Je l'ai rencontré là, aux réunions qu'on faisait. Et c'était très bien. C'est lui-même qui a voulu qu'il y ait un groupe de femmes pour l'histoire du féminisme, l'histoire des femmes, dans son émission. C'était les papes de la contre-culture, on pourrait dire comme ça. Parce qu'eux, ils vivaient de leur plume. Ils ne vivaient pas du tout d'une position universitaire.
Habituellement, Simone de Beauvoir n'accorde pas d'interview aux journalistes. Hier, parce qu'il s'agissait, elle l'a dit elle-même, d'un grand événement dans le mouvement général de libération de la femme, elle a fait une exception. Elle a accepté de répondre aux questions de Claude Deras. D'abord, la raison de sa présence à Bruxelles.
Parce que tous les mouvements de femmes me concernent, que je m'intéresse énormément à l'évolution de la libération de la femme, et que comme il y a ici justement une grande journée des femmes qui est destinée à aider les femmes à s'exprimer, et à partir de là, à avoir les moyens de se libérer, eh bien, je me sens solidaire d'elle et je viens pour participer avec elle à ces discussions, à ces débats.
Au fond, c'est une lutte que vous menez depuis très longtemps.
C'est-à-dire que sous cette forme actuelle, tout à fait militante, je ne la mène guère que depuis un an. J'ai écrit, voici déjà plus de 20 ans, Le deuxième sexe, qui était alors une prise de position en somme théorique, intellectuelle, sur le problème. Vous essayez de démontrer un certain nombre de thèses. Essentiellement, celle à laquelle je tiens, qui est fondamentale, qui résume toutes les autres de mon esprit, c'est qu'on ne naît pas femme, on le devient. C'est-à-dire que la féminité est une question, une fabrication en somme culturelle, comme d'ailleurs la masculinité, et non pas du tout une donnée biologique, une donnée naturelle. Alors ça, j'ai défendu ça toute ma vie, depuis 20 ans, dans mes différents écrits, mes différentes interviews, mais simplement à titre personnel. Et c'est seulement depuis, disons, un peu plus d'un an, que j'ai été contactée par le mouvement de libération des femmes françaises et qu'avec elle, alors, j'ai fait différentes actions. La première étant de signer un manifeste qu'on a appelé en France le manifeste de 343, dans lequel nous étions un certain nombre de femmes, quelques-unes connues et beaucoup d'inconnues, qui déclarions nous être fait avorter, de manière à faire un acte un peu provocant qui attire l'attention du public et des autorités sur le problème fondamental, un des plus fondamentaux aujourd'hui, touchant le sort de la femme, le problème de l'avortement.
Les femmes avec nous, les femmes avec nous, les femmes avec nous, les femmes avec nous.
Dans un beau pays comme la France, c'est dégueulasse de laisser faire ça.
C'est une honte. Ce qui est encore mieux, c'est tous les gens qui les regardent qui disent rien, c'est ça qui est la honte.
Vous en êtes, madame?
Oui, mais il faudrait être plusieurs pour crier, bien sûr.
Les femmes dans la rue, pas dans la cuisine. Les femmes dans la rue, pas dans la cuisine. Les femmes dans la rue, pas dans la cuisine. Plus d'enfants à la chaîne, plus de chaîne pour les enfants. Plus d'enfants à la chaîne, plus de chaîne pour les enfants. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Devant nous, femmes esclaves, et ils sont nos enfants.
Simone de Beauvoir, vue par Marie-Claude Bonnet, historienne, Philippe Solers, une femme toujours au cœur de la question féministe avec Le deuxième sexe. Philippe Solers vient par ailleurs de nous quitter. C'était en mai dernier.
Retrouvez Par où dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première.